Heureuse de vous retrouver pour cette dernière édition de ce 18 mars 2024. À la une de ce 18h, la 14e édition des Journées géographiques s'est ouverte ce lundi et vise cette année à réfléchir sur la politique de décentralisation, en faire le bilan et définir les défis à relever. Une mission de suivi des actions menées dans les secteurs de la santé et de l'éducation auprès des bénéficiaires du projet PAGEDES s'est achevée le 15 mars dernier à Yamoussoukro. Toutes les parties s'en sont dites satisfaites selon notre correspondant Émile Yao que nous retrouverons pour son compte rendu. Dans l'actualité, hors de nos frontières, plus de 100 personnes ont été enlevées dans le nord-ouest du Nigeria lors de deux attaques distinctes, apprend l'AFP de sources officielles. Et puis la récente rupture de la coopération militaire avec les États-Unis annoncée par le Niger fait aussi l'actualité. Et pour le politologue ivoirien Arthur Banga, le Niger est dans sa logique de refus de contrariété. Bonsoir à tous. La 14e édition des Journées géographiques se tient du 18 au 21 mars 2024 à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ce colloque international qui s'est ouvert ce lundi porte sur le thème « La décentralisation et les défis du développement territorial ». Quatre décennies d'expérience africaine et internationale. Les détails dans ce compte-rendu de Jean-Claude Mabéa.
Les raisons du choix de la décentralisation comme thème de ce colloque ont été expliquées par la présidente de l'Association des géographes de Côte d'Ivoire, professeure Céline Bikpo.
Cette année, nous avons décidé de porter notre réflexion sur les questions de décentralisation. Parce que la décentralisation est un modèle que la plupart des sociétés ont trouvé pour rapprocher les pouvoirs publics des populations et d'adresser leurs besoins. Et depuis une quarantaine d'années, ce genre d'activité ont lieu et nous voulons nous arrêter pour faire un bilan, pour voir ce qui se passe chez nous et ailleurs, parce qu'on a des occasions de discuter donc entre scientifiques pour voir comment cette décentralisation marche ou pas ailleurs. Quels sont les défis, quels sont les enjeux, quelles sont les contraintes qu'on peut avoir dans cette décentralisation.
Le thème de ce colloque est donc d'actualité, d'où l'intérêt qu'accorde Yapi Fidel, le directeur général de la décentralisation et du développement local.
On ne peut pas parler de géographie et ne pas parler de la décentralisation. Parce que la géographie, c'est la science de l'espace. La décentralisation, c'est un processus pour organiser l'espace. Et c'est de bon aloi que l'université convie le ministère de l'Intérieur à participer à ce colloque. Et nous nous en réjouissons puisque nous sommes en pleine réforme et les conclusions de ce colloque nous permettra d'améliorer les réformes que nous avons initiées.
Cette première journée a été marquée par la conférence inaugurale animée par le professeur Ouou à Sepo, président de l'ASCAD, suivi de la visite des stands.
Le conseil régional du Tchologo ambitionne de prioriser l'employabilité des jeunes et des femmes dans la perspective de leur autonomisation. C'est la principale décision qui a sanctionné les travaux de la première session 2024 de cette institution tenue le 16 mars dernier à Kong, d'où nous appelle notre correspondant dans le Bekè, Joseph Assali.
Le président du conseil régional du Tchologo s'est félicité des équipements sociaux communautaires de base réalisés en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Téné Bireima Ouattara.
Les cinq dernières années, nous avons fait un certain nombre de réalisations que nous pensons pouvoir continuer encore pendant ces cinq prochaines années, que ce soit en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'infrastructure routière.
Il a annoncé que pour les années à venir, la priorité reste l'employabilité des jeunes et des femmes.
Un chapitre chapitre qui nous concerne, qui nous touche particulièrement, sur lequel nous sommes très sensibles, c'est celui de l'employabilité des jeunes. C'est vrai, nous avons mis ce mandat sous donc le sceau de l'employabilité des jeunes. Nous allons nous y employer et bien entendu créer aussi des activités rémunératrices pour nos sœurs, les femmes.
Le préfet de la région du Tchologo a pour sa part engagé les conseillers régionaux quant à leur responsabilité dans la planification du développement local. Souris Jean-Pierre.
Vous avez la responsabilité de définir les grandes orientations stratégiques et de mettre en œuvre les politiques publiques qui permettront à notre territoire de triompher des crises et de se préparer pour l'avenir. Vous êtes à ce titre les acteurs clés de l'essor économique, social, environnemental et culturel de notre région. Vous avez les compétences.
Il a souligné qu'en matière de progrès, la région de Tchologo est sur la bonne voie. Joseph Assalé, Kong, Radio de la Paix.
Et en vue de consolider les liens de fraternité et de paix qui existent entre les Wais résidant dans le département de Biankouma et leur tuteur Dan, l'association des guerriers résidant dans le département de Biankouma vient d'organiser une journée de retrouvailles pour signifier à leurs tuteurs leur participation active au développement de ce département. Plus de détails avec Stéphane Adams, notre correspondant dans le Tonkpi.
Ambiance bon enfant que le peuple Wais résident dans le département de Biankouma marque toute leur reconnaissance à leur tuteur dans la teneur avec le président de la dite association P. Bertin Jérôme.
Nous avons toujours vécu en parfaite harmonie ici dans le département de Biankouma avec nos tuteurs dans et c'est cette tranquillité qui nous a poussé à créer cette association dénommée AGRDB. Entendez, l'association des guerriers résident dans le département de Biankouma est là pour mission de susciter une solidarité agissante entre ses membres, promouvoir la solidarité, l'esprit d'équipe et surtout d'être un partenaire au développement.
Le parrain de la cérémonie, fils et cadre de la région de Biankouma, Dr Deli Mamadou, salue l'initiative en ces termes.
En acceptant de parrainer cette cérémonie, je m'inscris parfaitement dans la droite ligne de ce que nous devons travailler à la cohésion sociale dans nos communautés. Nous devons travailler à la solidarité dans nos communautés, comme le demande le président Alassane Ouattara, à tous les cadres, à tous les fils de ce pays, de solidariser, de répondre, n'est-ce pas, aux attentes de nos parents. Donc qu'ils viennent, quelles que soient, n'est-ce pas, les différences entre ces différentes communautés. Merci d'être venus nombreux. Sachez que vous pouvez compter sur nous. Nous nous inscrivons dans l'intérêt de Biankouma.
Notons que Biankouma continue de prendre sa place dans la promotion de la paix. Stéphane Adams, Biankouma, Radio de la Paix.
La coordination du projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens PAGDS et son partenaire financier, la Banque mondiale, ont bouclé le 15 mars dernier à Yamoussoukro une mission de suivi des actions menées dans les secteurs de la mobilisation des recettes intérieures, de la santé et de l'éducation auprès des bénéficiaires du projet. Le point avec Emiliao.
Démarrée à Abidjan, la mission s'est poursuivie à l'intérieur du pays avec les étapes de Korogo, Bouaké et Yamoussoukro. Yao Madeleine, coordonnatrice du PAGDS, projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens.
Nous sommes venus sur le terrain pour apprécier l'état d'avancement des différents projets et surtout la fonctionnalité de tous les outils que nous avons installés déjà. Globalement, nous sommes satisfaits des résultats parce que nous avons vu une administration prête au changement.
Au-delà de ce satisfait-ci, quelques défis restent toutefois à relever, explique Saïdou Diop, chargé du PAGDS à la Banque mondiale.
Au niveau du secteur de la santé, le déploiement du système d'information hospitalier, nous avons pu nous rendre compte des difficultés, surtout au niveau de la connexion, mais également la disponibilité de certaines ressources humaines, notamment en matière informatique, qui nécessitent donc un renforcement. Les problèmes de stabilité également de l'électricité dans certaines zones comme Bouaké. Et nous avons pris bonne note de ces défis.
Les bénéficiaires, à l'image de Dr Kofi Justine, directrice du CHR de Yamoussoukro, ne cachent pas leur satisfaction face à l'impact positif des différents projets.
Nous bénéficions du projet SIH, le système informatique hospitalier. Et ça nous apporte un plus dans la mesure où il y a moins de perditions. Nous passons au niveau des recettes du simple au tri.
Ce projet, d'un montant global d'environ 195 millions de dollars, clôture le 31 décembre 2025 et le défi principal à relever reste sa pérennisation. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Et à l'occasion d'une mission de la Banque mondiale sur le système d'information en milieu hospitalier à la PMI de Boaké-Sokoura la semaine dernière, le directeur de cabinet du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a exhorté ses collaborateurs à soigner leur image par l'amélioration de la qualité de l'accueil dans les formations sanitaires. Docteur Aka Kofi-Charles est au micro de Joseph Assalé.
Notre système de santé a un problème. C'est tous les jours que vous voyez sur les réseaux sociaux les récriminations des populations, à tort ou à raison, mais très souvent à raison. Parce que l'image que notre système dégage auprès des populations n'est pas une bonne image. Et il nous appartient de faire en sorte d'améliorer cette image, et notamment d'améliorer l'accueil. Mais je crois qu'il faut améliorer la communication. Ceux qui viennent à nous, là, c'est nos parents. Personne ne vient dans un hôpital parce qu'il est content. Quand quelqu'un vient dans un hôpital, c'est qu'il est dans une situation de peur. La personne pense, ne sachant pas donc ce qu'elle a, elle pense que les minutes qui suivent là, si on ne s'occupe pas d'elle, elle va mourir. Donc nous, il nous appartient de comprendre cet état d'esprit. Il a besoin d'être rassuré. D'où l'amélioration de l'accueil. Ce qui nous oblige à mettre en place un système ou un circuit dont le point de contact doit être formé. Parce que l'image ou le mauvais accueil part du point du premier contact. C'est lui à qui le patient a fait premier contact. Ce qu'il dit est très important. Parce qu'à partir de là, la personne déjà se fait une idée et tout ce qui va venir après va se gâter. Donc cela nous oblige à nous surpasser, à nous donner corps et âme, mais à avoir le cœur à l'œuvre et à vous donner des soins, ce qu'on appelle les soins humanisés. Travailler à l'hôpital ou travailler dans un centre de santé n'est pas comme travailler dans tous les autres services. Nous sommes un secteur sensible, un secteur où quand quelque chose est gâté, on ne peut plus réparer.
Vous écoutiez Dr Aka Kofi-Charles, le directeur de cabinet du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. On reste toujours dans le volet sanitaire pour parler cette fois d'insuffisance rénale. En Côte d'Ivoire, plus de 12 000 nouveaux cas sont détectés par an. Parmi eux, au moins 1 200 présentent une insuffisance rénale terminale. L'insuffisance rénale est une maladie grave qui entraîne une détérioration plus ou moins irréversible de la capacité des reins à filtrer le sang. Et sur les raisons de ce chiffre, Boza Jean-Guillaume, président du groupe Rénal Santé Côte d'Ivoire, nous donne des explications.
La situation des maladies rénales est mal connue. C'est une maladie mal connue. La preuve en est qu'on n'en parle pas assez. Et si ce n'est que dans ces derniers jours, lorsque nous avons en face d'une journée comme celle-ci qui vient de passer le 14 mars, là, on peut se rappeler du moins de quoi il s'agit. Sinon, si nous parlons de la maladie rénale un peu partout, dans les hameaux, dans les coins retirés, je pense bien que les centres d'Abidjan ne seront pas bondés du monde de malades. Parlons des chiffres, on va parler des pourcentages des choses. Parce que lorsqu'on parle d'insuffisance rénale, c'est-à-dire de l'insuffisance rénale chronique, il faut dire que ce sont des patients qui arrivent en dialyse et qu'on ne peut guérir que seulement par la transplantation rénale. En termes donc de pourcentage, c'est lorsque 75% des reins sont détruits et que les 25% qui restent là tournent en sur-régime. Donc pour y arriver, c'est la prévention. C'est vrai, l'État fait déjà des efforts. L'État déjà pose d'antenne maintenant, voilà, pour lutter, mais ce n'est pas suffisant. Nous, en tant que ONG, les partenaires sociaux de l'État de Côte d'Ivoire, nous devons bénéficier des moyens. Parce que, vous voyez, par an, si on parle de 12 000 personnes qui tombent malades de cette maladie, de ce tueur silencieux, alors il va s'en dire que nous devons passer un peu partout et aider l'État à combattre.
C'était à l'instant Boza Jean-Guillaume, président du groupe Rénal Santé Côte d'Ivoire. Rappelons que la journée mondiale du rein a été célébrée le 14 mars 2024 avec pour thème « Vers un accès équitable et une prise en charge optimale de votre santé rénale ». Et puis, période de Ramadan, nous sommes dans la période de Ramadan et l'augmentation des prix des produits de première nécessité est une préoccupation majeure. Cependant, on note pour la plupart des marchandises une invariabilité des prix, même si d'autres voient leurs coûts grimper du fait de la rareté sur le marché. Notre reporter Christelle Yesseau s'est rendue sur le terrain pour un constat de la situation. Suivons donc son compte-rendu.
Avec le début du mois de Ramadan, les populations craignent de voir les prix des marchandises augmenter. Cependant, une certaine stabilité est constatée par les commerçants.
Angèle, pour le moment, rien n'a changé. Mais peut-être, bon, comme ça vient de commencer aussi, le carême des musulmans. Sinon, d'habitude, quand les musulmans font leur carême, tout augmente. Mais cette année-là, je n'ai pas encore remarqué quelque chose de changé, quoi.
Comme dirait Stéphane, période de carême, là, je crois que cette année, il n'y a pas d'augmentation. Les choses sont même sauce en fait. Oignon, c'est 600, Et ça reste toujours 600 fruits en détail. Il n'y en paraît.
Il n'en est pas de même pour cette vendeuse de fruits qui se voit contrainte d'augmenter le prix de ses marchandises.
C'est un gris, comme essence. Les prix ont énormément changé. Par exemple, le filet d'orange, j'ai pris aujourd'hui à 12 000 francs. Alors que même il y a cela 5 jours de vendredi, c'était encore à 8 000 francs. On a fait toute la journée d'hier, il n'y avait pas d'orange. Et aujourd'hui, quand c'est arrivé là, c'est monté à 12 000 le filet. Il n'y en a pas. Ça manque. Ça, c'est la réponse qu'on nous donne.
La rareté de certains produits, dont les causes sont méconnues par les commerçants, impacte aussi la bourse des consommateurs.
Ça va qu'on dépense plus, ça va que notre argent du marché, ça ne peut plus finir le mois. Parce que si on veut manger comme d'habitude, ça ne peut pas.
Pour ce début du mois de Ramadan, les prix des denrées de première nécessité restent globalement inchangés, même si la rareté de certains aliments risque de perturber cette stabilité à peine retrouvée.
Dans l'actualité, hors de nos frontières, plus de 100 personnes ont été enlevées dans le nord-ouest du Nigeria lors de deux attaques distinctes dans l'état de Kaduna, ont indiqué ce lundi les autorités locales. Cet état où plus de 250 élèves avaient déjà été kidnappés début mars et plusieurs autres dizaines de personnes la semaine dernière. Les attaquants ont donc enlevé 87 personnes dans la localité de Kajuru Station dans la nuit de dimanche à lundi, a déclaré le président du gouvernement local Ibrahim Kajere. Tandis qu'une source des Nations Unies et un ancien fonctionnaire local ont déclaré à l'AFP que 16 personnes avaient été enlevées dans un village voisin samedi. Rupture de la coopération militaire avec les États-Unis. Le pouvoir militaire du Niger est dans sa logique de refus de la contrariété par rapport à une transition rapide. C'est la conviction de l'analyste politique Arthur Banga. Il répond aux questions de Junior Cardin.
Bon, on peut dire que le Niger est déjà dans la logique et la sienne depuis le coup d'État, c'est-à-dire essayer de rompre avec, pour ceux qui ne l'encouragent pas ou qui ne s'inscrivent pas dans cette démarche jeune, c'était d'abord la France, puis la CDAO. Au début, les États-Unis semblaient tergiverser, semblaient espérer tout au moins une transition rapide. On voit que c'est pas le cas aujourd'hui. Les choses se gâtent entre ces deux partenaires et la jeune sort là, tout qu'elle sort d'habitude, celui de rompre la coopération militaire.
Mais quelle était la qualité de ces rapports-là entre le Niger et les États-Unis d'Amérique? Pourquoi aujourd'hui on parle de rupture de coopération militaire?
Bah, le Niger étant dans Israël avec la menace terroriste a été mis au cœur de la stratégie américaine dans Israël depuis plus de 10 ans. L'accord dont il est question remonte à 2012. L'idée était que les États-Unis puissent avoir une base au Niger qui puisse permettre de participer à la lutte contre le terrorisme en Afrique. Donc cette présence militaire américaine la deuxième plus importante sur le continent après celle de Djibouti. Le changement de régime, l'arrivée des militaires au pouvoir au Niger a suscité des inquiétudes des Américains, mais ceux-ci ont conservé leur coopération militaire, espérant sans doute un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Et cette exigence a dégradé les relations entre le pouvoir du Niger et les États-Unis.
Arthur Banga, analyste politique ivoirien, revenait sur la récente rupture de la coopération militaire avec les États-Unis annoncée par les autorités nigériennes. Et cette information met un terme à notre édition dont voici le rappel des titres. La 14e édition des Journées géographiques s'est ouverte ce lundi et vise cette année à réfléchir sur la politique de décentralisation, en faire le bilan et définir les défis à relever. Une mission de suivi des actions menées dans les secteurs de la santé et de l'éducation auprès des bénéficiaires du projet PAGEDES s'est achevée le 15 mars dernier à Yamoussoukro. Toutes les parties s'en sont dites satisfaites selon notre correspondant Emiliao que nous avons eu dans ce journal. Et au Nigeria, plus de 100 personnes ont été enlevées dans le nord-ouest du pays lors de deux attaques distinctes, apprend l'AFP de sources officielles. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, votre magazine Economia, piloté par Jean-Claude Comé.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Bonne nouvelle pour l'industrie des hydrocarbures en Côte d'Ivoire.
Une autre découverte majeure de gisements de gaz et de pétrole vient d'être annoncée. Le gisement Kalao, qui vient s'ajouter au gisement Baleine, déjà en exploitation, renforce un peu plus l'objectif du pays de devenir à court et moyen terme un pays incontournable en ce qui concerne la production d'hydrocarbures, notamment du gaz, du pétrole et autres dérivés. Progressivement, la capacité de production